7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Il est 9h moins le quart. Dans 10 minutes, il y aura l'analyse de Xavier Aymon. Mais tout de suite, c'est la chronique d'Alexandre de Galzin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour Alexandre, alors quoi de neuf?
Eh bien, la nuit dernière, j'ai rêvé de Saint-Pierre. Alors que j'y suis jamais allé, je connaissais la chanson. Une jeune fille, aux yeux comme le désert, tout semble comme hier, pas loin.
Je reconnais ça, Alexandre. C'est les paroles de la Isla Bonita.
Ah, pardon, mais ça n'a aucun sens, c'est vrai. Bon, alors, dites-moi, est-ce que vous connaissez l'histoire d'une gitane qui implora la lune jusqu'au lever du jour? Pleurant, elle demandait à un gitan qui voudrait l'épouser par amour.
Mais c'est encore une autre chanson, ça.
Oui, zut, c'est ma période années 80, j'y peux rien. Bon. Alors, chers auditeurs, cher Richard, je confesse qu'aujourd'hui, je vais pas vous faire rire.
Oh.
Non, mais ce que j'aimerais, c'est plutôt vous faire verser la larme à l'œil, vous attendrir avec une histoire touchante. On peut la résumer en un titre du journal Le Parisien. Le triste destin d'Idir, ex-ingénieur commercial devenu accro au chemsex et parrain d'un réseau de dealers.
Ah oui.
Ouais, alors retenez vos larmes, s'il vous plaît. Je sais que ça va pas être simple, mais je tiens à aller jusqu'au bout. Alors bon, l'histoire d'Idir, elle est déjà assez triste. Déjà, c'est un ingénieur commercial. Pardon, mais rien que ça, ça me déprime. Enfin, c'est ce genre de métier. Tu fais quoi dans la vie? Ah, moi, je suis ingénieur commercial. Et là, c'est un gars qui tape sur l'épaule et qui fait... Tu sais, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, tu sais, et si jamais t'as besoin d'aide pour t'en sortir, tu pourras compter sur moi. Enfin, là, ça marche pas dans mon histoire, vu que les gars se connaissent pas, mais dans l'idée... Enfin, bref, quand t'es ingénieur commercial, en fait, tu peux pas compter sur grand monde, et déjà, ça, c'est triste. Bon. Et bref, et le gars, bon, tu sais, ingénieur commercial, comme ça, et puis il commence à devenir accro au chemsex. Ah merde, ah, et ben, ça arrive à tout le monde, tu te balades dans la rue et tu tombes accro au chemsex.
Bah, j'ai un ami à qui ça arrivait pas plus tard qu'hier.
Bah voilà, bah, qu'est-ce que je disais? Ah donc le gars, tu sais, il se balade, ça arrive sans faire exprès. Et puis là très vite tout s'accélère, c'est la spirale quoi, il devient accro au chemsex. Il a besoin d'argent pour faire ces trucs de déviant que la décence m'empêche de décrire. Puis on se rend pas compte mais il y a pas que le GHB, la cocaïne et la 3MMC à acheter. Faut aussi le masque en cuir, la cravache, la boule avec le ruban derrière, puis tout le reste. Alors, l'histoire d'Idir après ne dit pas à quel niveau d'implication étaient Jack Lang et Epstein. Ah pardon! Je voulais dire Epstein! Alors bref, donc il a besoin d'argent le pauvre Idir quoi, donc il est obligé de... Puisqu'il est obligé de faire du chemsex, il n'y a plus le choix, vraiment là c'est terminé, bah il doit se mettre à la tête d'un vaste réseau de drogue de synthèse. Bah oui, t'as vu comment on se fait prélever par l'URSSAF aujourd'hui? Bah oui, si on doit gagner de l'argent pour payer votre chemsex, et bah on est obligé de se mettre à la tête d'un vaste réseau de drogue de synthèse. Je suis désolé. Bah oui, donc voilà le triste destin d'Idir décrit dans Le Parisien qui a fini par être obligé de se mettre à la tête de ce juteux trafic. Alors la juteux, on sait pas si ça fait référence plus au chemsex ou à la drogue, mais enfin, tous les chemins mènent au vaste réseau de drogue de synthèse, je suppose.
Mais tout cela est affreusement triste, en fait.
Eh oui, c'est comme l'histoire d'Abou Sangaré. Abou Sangaré, un acteur sous OQTF qui jouait dans le film L'Histoire de Souleymane, vous vous en rappelez? Eh ben, ce type qui arrivait en violant toutes les lois françaises n'a pas bénéficié d'une si grande générosité de la gauche qui l'adulait, parce que après que son film a gagné 24 Césars et les critiques gentilles dans Libération et Télérama, le voilà qui se retrouve à devoir retourner sur les chantiers. Ouais. Pauvre Abou!
Eh bien, pour les rares auditeurs qui n'étaient pas encore réveillés, je pense que c'est fait maintenant.
Non, on n'en avait pas encore parlé, mais c'est Ramadan ces derniers temps.
Oui, alors vous faites bien de me le dire parce que j'ai jamais rien compris à ce truc. Non mais sérieux. En fait, faut se dire que c'est quand même la seule période de l'année de jeûne pendant lesquelles les mecs ils prennent du poids. Honnêtement, je capte pas l'idée. Les types mangent 2 kilos de macroute le matin, puis t'as le soleil qui se lève, tu vas au boulot, et puis là, pas manger, pas boire, blablabla, pas manger, oh là là là, un petit grain de couscous, non, pas le petit grain de couscous, oh, la petite goutte de sueur sur le front du collègue, on peut la lécher. Ah mais c'est dégoûtant, qu'est-ce que tu fais? Bon, bref, j'ai avalé ma salive, ça compte ou pas? On marque un point si je fais la prière une deuxième fois, celle de midi à 13h, ça passe? Bah ouais, parce que j'ai pas de pause déj, Ramadan, donc on compte comment? J'en parle à l'imam, au responsable à l'EFI, ah pardon, je confonds toujours, mais bon bref, s'il pleut, y a la goutte d'eau qui tombe dans la bouche, est-ce que je dois cracher après? Comme le chameau? Non, c'est, je sais pas. Bon, alors après, les types, ils rentrent chez eux le soir comme ça. Et puis, tu vois, ils regardent leur femme qui passe 2 heures à cuisiner, là, ils la regardent comme ça. Et puis là, paf, les cornes de gazelle, on y va. les trucs machin, cannelle au miel, on y va. Les loukoums, une boîte chacun. Et vas-y que je me tartine la bouche de pistache et de date là. Et puis, alors là, tu vois, c'est l'entrée. Donc je te laisse imaginer le plat et le dessert. Hein. Ça va s'envoyer deux tastiques roustis par personne et un taxos, tacos XL, sauce Alger, salade tomate oignon avec cordon bleu et viande kebab et puis des sortes McFlurry goudin. Ah mais non, mais rien que d'en parler, ça m'écœure, quoi, je vous assure. Donc je résume, hein. Le Ramadan, les types boivent pas et mangent pas entre 7h du matin et 19h30. En gros, ils sautent le déj et les pauses café. Et puis le soir, ils prennent 10 000 calories et 2 grammes de glucose par litre de sang. Et je suis désolé, je m'y ferai jamais. Alors bon, après, il y a des aspects intéressants à l'idée, je dois reconnaître.
Ah bon, lesquels?
Bah par exemple, c'est la femme qui fait tout le repas et toute la vaisselle.
Oh,
ouais, bon, je rigole évidemment. Bon, alors, non, mais je suis pas comme ça en plus, je suis très progressiste comme type. Donc, non mais, nous écartons pas du sujet et revenons quand même à l'islam.
Oui, alors vous voulez nous rappeler justement que tout le monde ne fait pas le Ramadan.
Absolument, oui, ceux qui font pas Ramadan, c'est les Tunisiens amis d'Estrosi.
Alors là, j'ai du mal à vous suivre.
Bah regardez, il y a 2 semaines, Christian Estrosi, le maire de Nice, eh ben on lui a mis une tête de cochon devant sa porte. Alors là, voilà, donc elle est affichée, c'est vraiment pas Ramadan friendly, hein. Enfin, peut-être que si, mais faut vraiment le dire vite, quoi. Pour nos éditeurs qui commettraient la suprême erreur donc de pas nous regarder sur YouTube et sur X, je vous décris ce qu'est actuellement en train de voir à l'image, hein. On voit une tête de cochon avec écrit dessus, enfin voilà, avec épinglé la tête d'Estrosi, voilà, avec écrit en lettres rouges, alors je cite... Connard, et une étoile juive en dessous. Bon, alors forcément,
je dis bien,
Estrosi,
on a cité en disant
oui,
connard. Hein.
Oui, bien sûr, voilà. Mais alors forcément, Estrosi, il commence à faire comme ça, comme s'il allait se faire. Et donc voilà, pendant 2 semaines, il nous a tartiné façon. Oui, c'est une campagne très difficile. Et puis il a suggéré que c'était une attaque antisémite d'Éric Ciotti et Pierre-Édouard Stérin. Alors j'ai trouvé ça assez marrant parce que bon, Éric Ciotti déjà déposer des têtes de cochon, c'est particulier. Mais vu ce qu'il a fait en juin 2024 au siège des LR, tu sais qu'il est capable de tout. Bon. Mais alors, Pierre-Édouard Stérin, tu sais, il sort de nulle part, il est passé, hein? Quoi? Non, c'était son cousin? Ah, pardon, pas de sujet. Bon, bref. Donc, là, ça fait 2 semaines que la tête de porc, elle empoisonne cette campagne à la noix, bon. Sauf qu'on a appris un truc de dingue récemment. En fait, 2 Tunisiens ont été arrêtés pour cette tête de cochon. Alors là, bon, pas de délit de faciès, hein, bien sûr, mais... A priori, quand t'as pas beaucoup d'éléments, tu te dis qu'il y a un truc à tirer. Musulman, enfin, Tunisien, musulman, pro-Palestine, extrême-gauche, tête de cochon, machin, bon, pourquoi pas. Mais là, il y a encore plus rigolo, parce que... Dans le commando de l'opération Tête de Cochon, bah, y avait 2 autres types, dont un proche du couple Estrosi. Oh, bah alors là, j'affirme rien, hein, attention. Mais imaginez juste que le type ait commandité une opération Tête de Cochon pour gagner des voix aux prochaines municipales. Non, truquer des élections dans le sud de la France de manière mafieuse, j'arrive pas à y croire. D'autant que qui, en France, peut s'asseoir à ma table et douter de la probité de Christian Estrosi? Non, mais voilà, moi je crois que Estrosi, il est innocent.
Alors, quel serait le mobile du crime?
Mais il n'y a même pas de crime. Les types, ils se saluent comme ça dans le sud. Salut, connard. Je cite, hein, pardon. Hein. Ça va, toi, sale chien? Bah oui, là, je m'en cite plus, mais bon, bref. Ouais, c'est l'ambiance. Donc voilà, c'est le sud. Ah, il faut s'y faire. Et puis le cochon, c'est avec le pastis, comme ça. C'est peut-être juste un plateau repas livré en beurre, on sait pas. Enfin,
il y a cette étoile jaune aussi, quand même.
Mais alors? Ça vous arrive jamais de mettre une étoile en haut du sapin de Noël? Peut-être que les gars, ils confondent Noël et Ramadan, on sait pas. Hein. Et puis. Peut-être aussi qu'ils ont confondu Nice et Marseille avec cette histoire de vieux port. Enfin bref, bon. Mais après, bon, je comprends plus rien, je dois dire, quand même. Parce que Estrosi, il a quand même affiché le drapeau d'Israël en haut de sa mairie de Nice pendant 6 mois dans son mandat, là. Et puis l'autre jour, il expliquait aux musulmans de Nice qu'en fait, ouais, peut-être qu'il avait été un peu excessif sur le conflit israélo-palestinien. Bon, je parlais de Marseille à l'instant avec le vieux port, là. Bon, vous savez, c'est la ville. Marseille, pour ceux qui ne situeraient pas, c'est la ville où se présente la candidate LR qui dit travail, famille, patrie. C'est peut-être la devise de Pétain, mais c'est aussi la mienne. Bon, bah voilà. Et bah là, on a le maire Benoît Payan à Marseille, oh, qui essaye de se faire réélire, là. Il fait la danse du ventre à l'IFTA, comme ça. Et donc, du coup, visiblement, bah lui aussi, il fait Ramadan. Donc, on le voit sur des vidéos en train de se trémousser avec sa tête de méchant, là, comme ça, bizarre, là. Sous les youyou des Algériens, t'as une ambiance OSS 117 ou Dupont et Dupont, tu sais pas. Mais bon. Je pense que c'est un peu excessif de tomber dans les accusations de clientélisme. Les types sont sûrement simplement un fan de Netanyahu repenti et un amateur de danse folklorique.
Vous poussez quand même l'anticomplotisme pardon, un peu loin, je trouve. On dirait du Beethoven. Bon, et sinon, quoi de neuf depuis qu'il y a de l'actualité?
Ah, vous changerez toujours, Richard. Non, bah alors, bon, parlons de l'islam. Là, on a Jean-Luc Mélenchon qui dévisse totalement.
Et qui imagine qu'on peut faire une jonction entre la foi et la raison. Mais cette idée, elle n'est pas venue des verts pâturages qui nous entouraient à l'époque. Elle est venue d'Averroès, penseur musulman, arabo-andalou.
Ouais, bravo, bah alors là, vous savez, c'est le type qu'on nous dit, ouais, mais Mélenchon, super intelligent, très cultivé, tout ce que vous voulez. Il explique quand même que l'idée de lier la foi à la raison, ça vient d'Averroès. Alors, comment vous dire?
Oui, c'est chaud, là, quand même.
Ouais, bah oui, bah, c'est comme
Saint Thomas d'Aquin, ce genre de truc.
Bah, non, mais en fait, je sais pas, mais vers l'an 325, à peu près, hein, les chrétiens débattaient en gros de s'il fallait être monophysiste, ébioniste, docétiste, nestorianiste, diophysiste ou christolo-évangélique, quand même. Enfin, pardon, mais les gars, ils avaient 12 hérésies qui naissaient toutes les semaines. J'ai regardé, hein, j'ai refait la liste. T'avais les martionnistes, les gnostiques, les montanistes, les ariens, les donatistes, les pélagianistes. Enfin bref, les types se torturaient le cerveau pour savoir si la nature profonde de Dieu, c'était une, double, triple, quadruple, suprahumaine, bihumaine, mi-humaine, trinitaire, bidivine, double séparée, double unie, tax, mâche en revers, 45. Quoi. Enfin, pardon, mais on peut écrire 243 thèses là-dessus. Donc, non, en fait, bon, jeter tout ça à la poubelle. Tout ça, l'important, c'est Averroès. Donc, mais après, j'ai rien contre Averroès. Je précise, j'ai eu la semaine dernière au téléphone, Psartek, tout va bien, Mzian. Bah, le type, c'est quand même un autre calibre que l'imam Chalgoumi, quand même. Pardon, mais l'islam intellectuel, ça a un peu changé, faut le dire. Hein. Alors, Averroès, il avait pas inventé la théologie, ok. Mais entre lui et le type qui dit « Ne disons plus France Allah Akbar, mais France Akbar ». Je suis désolé, mais on est redescendu d'un étage, quoi. Le gars, il est responsable du culte musulman en France, et son truc, c'est de passer des soirées avec Boualem Sansal, le Voltaire algérien, et Shannon Seban, la Nabila de l'antisémitisme. Alors, je sais pas si vous connaissez Shannon Seban, hein, mais en gros, c'est un peu une sorte de Rachel Kahn, version influenceuse. En gros, t'es contre Netanyahou, paf, antisémite! Ah merde, putain, raté. Enfin, voilà, t'expliques que tu veux pas aller bombarder l'Iran demain, ah, antisémite! Ah, tu penses que les gens sont morts à Gaza, ah, antisémite! Ah, t'aimes pas les falafels, ah, pareil, antisémite! Ah, c'est dur, hein. Bon, tu sais, on dirait un peu les gars de franc-tireur comme Brice Couturier ou Christophe Barbier. Les gars, tu leur dis qu'un militant nationaliste, il a été tué par l'extrême gauche, ils prennent 2-3 secondes pour réfléchir, ils se caressent le menton et ils disent, il faut pas tomber dans le piège des extrêmes et attiser les haines. Alors bon, tu soupires, c'est lourd quoi. Enfin bon, bref, tu retournes les voir et tu leur expliques que la France a quand même une vieille situation. T'as la désindustrialisation, situation des agriculteurs et c'est quand même pas jojo quoi. Puis là, les gars, ils prennent 2-3 secondes pour réfléchir, ils se cassent le menton, ils disent faut pas tomber dans le piège des extrêmes et attiser les haines. Alors là, tu commences à te retenir sérieusement de faire le jeu des extrêmes et à attiser toutes les haines qui existent et tu vas leur dire que t'allais juste acheter 2 baguettes tradition pas trop cuites ce matin. Bon, et devinez quoi? Ils prennent 2-3 secondes pour réfléchir, ils se cassent le menton, ils font... Faut pas tomber dans le piège des extrêmes et attiser les haines. Alors moi, je trouve ça hyper pratique comme idéologie, je dois dire. Tu sais, t'as jamais besoin de réfléchir, le constat, c'est toujours le même, et la solution, c'est toujours Macron. Mais comme tout le reste, comme dirait l'autre, je n'affirmerai pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché.
Merci beaucoup, Alexandre de Galzon.
Ligne droite, l'analyse.
Et cette analyse, c'est avec Xavier Aimant qui nous parle des délices de Dubaï. Voilà, on évoquait avec Amélie Chély le fait qu'il avait l'air d'avoir des problèmes à Téhéran, mais non, la vérité,
il n'y a pas c'est que, là. Que
les
il
vrais
a pas
problèmes
qu'il y a des
sont
problèmes.
À Dubaï.
Tout à fait. Alors, ça fait maintenant quelques années que Dubaï est entré dans l'imaginaire et dans l'existence des Français. Lieu de villégiature de vacances pour les uns, destination d'exil fiscal pour les autres, fantasme exotique pour d'autres encore. Il n'est en effet désormais plus rare de croiser des gens qui ont récemment fait Dubaï ou qui comptent s'y rendre prochainement. Dubaï est sur toutes les lèvres, celles qui sont botoxées, en tout cas. Mais pour les plus néophytes, qu'est-ce exactement que Dubaï ? Eh bien, revenons à l'origine. Tout d'abord, Dubaï, c'est une bourgade fondée au XVIIIe siècle qui est devenue, à l'aube du XXIe, en une trentaine d'années, à grands coups de projets immobiliers et touristiques pharaonesques, la première ville des Émirats Arabes Unis. Alors, située sur le golfe Persique, elle est la capitale de l'émirat de Dubaï et compte aujourd'hui pas moins de 3 millions d'habitants, dont seulement 5% sont des nationaux. C'est aussi une autocratie islamique, où la liberté d'expression est inexistante et les médias et réseaux sociaux contrôlés. C'est parallèlement à cela un paradis fiscal, la ferveur et la rigueur religieuse n'ayant jamais empêché le business et les bonnes affaires. Alors Dubaï, c'est également un endroit où il fait chaud. Il fait chaud, il fait même très chaud, les températures pouvant atteindre parfois plus de 50 degrés, ce qui conduit les habitants et résidents à vivre de longs mois exclusivement à l'intérieur, dans de grandes tours de verre climatisées, ce qui entraîne bien évidemment une consommation énergétique tout à fait démentielle. Alors quant à ces fameuses tours de verre et autres grands complexes immobiliers, ils ont été construits par des travailleurs migrants qui représentent entre 80 et 90% de la population active et sont généralement exploités dans des conditions abominables, proches de l'esclavage et pouvant aller jusqu'à la mort, comme le dénoncent régulièrement des associations humanitaires. Bref, pour résumer, Dubaï, c'est le stade ultime du capitalisme, combinant luxe ostentatoire, hypocrisie morale, loisirs spectaculaires pour gogo et exploitation sociale impitoyable. Un capitalisme à la fois hyper ludique et hyper violent, où la démesure architecturale et la consommation ostentatoire coexistent avec l'exploitation sociale et la concentration autoritaire du pouvoir. Et c'est donc dans ce formidable paradis qu'ont décidé de vivre plus de 64 000 Français, la plupart pour échapper à l'impôt. Des dizaines de milliers d'autres de nos compatriotes s'y rendent plus ou moins régulièrement en vacances. Alors parmi les résidents permanents, on trouve bien évidemment les fameuses influenceuses. Ces VRP du vide et de la vulgarité qui se sont récemment distinguées par leurs pleurs, leurs jérémiades et leurs appels au secours lorsque leur lieu de villégiature a été frappé par des bombardements iraniens. Et oui, horreur et stupéfaction, la guerre n'est pas réservée aux pays pauvres. Ça, c'est un coup dur, quand même. On peut légitimement se moquer des réactions de ces starlettes demi-mondaines montées sur coussinets de silicone, citoyennes du monde face à l'impôt, mais retrouvant subitement leur carte d'identité face au danger. Mais ces ravissantes idiotes ne sont finalement que l'arbre qui cache la forêt, la vitrine médiatique d'une faune beaucoup plus discrète d'expatriés et d'hommes d'affaires exilés fiscaux, pour lesquels la droite a toujours eu une coupable indulgence, pour ne pas dire une triste complaisance. Des exilés grands donneurs de leçons sur l'enfer fiscal socialo-communiste qu'ils ont abandonné et à géographes énamourés du havre de paix, de confort et de sécurité qu'ils ont rejoint, mais qu'ils n'ont cependant pas tardé à fuir, la crotte aux fesses, dès le son des premières explosions entendues. Cerise sur le gâteau de fiel, lors de cette piteuse débandade, certains, apparemment nombreux, n'ont pas hésité à abandonner ou à faire euthanasier leurs animaux de compagnie pour pouvoir regagner plus rapidement et plus aisément leur chère mère patrie. Quand on a la classe, autant la voir jusqu'au bout. Alors en France, Enguerrand et Marie-Hortense sont très favorables à la déchéance de nationalité pour les petits et grands voyous des cités de banlieue. Mais quid des déserteurs de l'effort collectif national et des jouisseurs hédonistes sans scrupules ni conscience? Alors sur ce sujet, Enguerrand et Marie-Hortense sont beaucoup plus dubitatifs. Et puis, ils n'ont pas que ça à penser. Ils sont en plein préparatif de leur prochain séjour à Dubaï.
Merci beaucoup, Xavier Mange. Je ne savais pas que vous connaissiez, vous aussi, Enguerrand et Marie-Hortense, qui sont de bons amis. Vous avez magnifiquement parlé de ces influenceuses. On est quand même toujours surpris de la manière décomplexée, en fait, dont, étant devenu soi-même une marchandise, on tient à expliquer qu'on est carrément à l'actif de la France et que la France doit évidemment surveiller ses actifs et les gérer intelligemment.
Les protéger.
Et voilà, et donc faire en sorte de rapatrier.
Ah ben, les gens avec justement d'une telle importance et d'une telle influence.
Ce sont des ambassadeurs.
Des ambassadeurs de la culture française.
Mais d'ailleurs, il n'y a pas seulement à Dubaï, il y a aussi en Israël, on a vu aussi au moment justement où il y avait ces frappes de réplique de l'Iran, on a pu voir interviewer plusieurs personnes, qui, notamment une femme qui vivait aux États-Unis et qui était venue, je ne sais plus, pour un mariage ou pour un enterrement en Israël, et qui s'indignait comme une poissonnière que la France ne l'ait toujours pas rapatriée à New York, où elle est quand même censée rentrer chez elle quand même, parce qu'elle était venue quelques jours en Israël, mais ce serait pas mal que la France s'en charge. Il y a une sorte de décomplexion formidable de...
Ce sont des sursauts de patriotisme, c'est tout à fait magnifique, complètement désintéressé, c'est beau à voir, c'est beau à observer. Mais c'est vrai que c'est assez... malgré le contexte évidemment éminemment tragique, c'est quand même assez amusant de voir ça et de voir surtout en effet l'absence de gêne totale de ces gens, quoi, qui ont non seulement fui la France pour des raisons souvent fiscales, mais qui ont souvent cracher sur le pays, qui pour certains d'entre elles mettent toujours en avant leurs origines extra-européennes, leurs origines notamment maghrébines, et qui soudain là se souviennent de leur attachement à la France et de la nécessité pour celle-ci de d'envoyer les forces spéciales pour les récupérer d'urgence dans leur loft de luxe à Dubaï.
Bah, il y en a une particulièrement auquel on pense et que nous saluons et que nous n'inviterons jamais, et qui avait expliqué que évidemment elle voulait être enterrée en Algérie, enfin voilà, que la France n'était pas son pays, et brusquement elle a retrouvé sa carte d'identité française. Il y a d'autres célébrités qui passaient des vacances à Dubaï, notamment Moscato, si je ne m'abuse, cet ancien rugbyman.
L'ancien rugbyman qui d'ailleurs a fait des réactions plutôt amusantes en relativisant aussi le danger de sa présence là-bas. Mais moi, c'est ça qui m'a frappé en fait en regardant ces différentes images, c'est pas tant les influenceuses, parce que ça on le savait depuis longtemps, mais le nombre et la diversité de gens qui étaient en vacances ou de passage à Dubaï. Ça, j'étais très frappé.
C'est quand même un aéroport, mais c'est quand même un aéroport qui est vraiment l'étape nécessaire.
Il y en avait qui étaient en escale, c'est une autre question, mais il y avait des gens qui étaient en vacances, en famille.
Il y a des gens qui vont chercher...
De tous horizons, et ce qui m'a beaucoup surpris, parce que c'est quand même, pour moi, une vision de l'enfer, cette ville totalement sans histoire, totalement artificielle, qui en plus, en fait, est un régime quand même autoritaire, islamique. Donc bon, ça, d'un point de vue de la cohérence de certains, je suis un peu surpris de les découvrir en vacances. En vacances à Dubaï. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que justement le caractère autoritaire du pouvoir a quand même fait que les jérémiades et les vidéos affolées des influenceuses ont rapidement cessé. Puisque les autorités leur ont rapidement expliqué que leurs propos nuisaient à l'image du pays et leurs vidéos pouvaient mettre en danger la sécurité nationale, et que donc si elles n'y mettaient pas un terme immédiat, elles pouvaient avoir des problèmes, notamment des amendes. Et comme ce sont des gens qui sont quand même relativement attachés à l'argent, ça a vite calmé la diffusion d'images et de messages de pleurnicherie.
Il paraît que le gouvernement de Dubaï est allé jusqu'à les menacer de les renvoyer en France.
Ah oui,
les pauvres.
Les pauvres. Ouais,
définitivement. Et là,
ah oui, sans espoir de retour,
menace d'être effectivement assigné en résidence en France parce que française. Et donc
à l'URSSAF et autres horreurs locales. Voilà,
assujetti à l'impôt.
Ce qui est un scandale.
Obligé de vanter les mérites des dernières promotions chez Lidl, car que font les vedettes de la télé-réalité quand elles ne sont pas mortes?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles auront du mal à faire la promotion ou à être les marraines du prochain congrès de la SPA. Hein, parce que j'ai quand même souligné ce fait que moi, je trouve absolument abominable et scandaleux de ces animaux abandonnés en masse dans les rues, voire piqués pour pouvoir, parce que prendre l'avion plus rapidement sans avoir besoin de faire des vaccins ou d'avoir des autorisations administratives, c'est quand même révélateur d'un état d'esprit que je trouve tout à fait abject.
C'est vrai que cette hécatombe de Bichon est assez surprenante. Il faudrait maintenant avoir une espèce de tableau comparatif des images avant et après je ne connais pas leur prénom, mais voilà, de toutes ces jeunes femmes qui exhibaient des carlins et sans doute des chochos et je ne sais quelles autres espèces poilues et au visage mignon.
Moi, je trouve ça terrible. Je suis pas spécialement un énorme défenseur des animaux, mais ça, je trouve vraiment que là, on touche un peu le fond, quoi.
Vous parliez sur la fin, Xavier Aymant, pardon, je deviens sérieux, c'est abominable, hein, mais vous parliez sur la fin de la passion coupable, enfin, en tout cas, de la tolérance coupable de la droite envers ces exilés fiscaux de manière générale, qui n'hésitent pas à faire les bénéfices. En fait, on a même beaucoup d'influenceurs de droite qui résident à l'étranger pour des raisons fiscales essentiellement. De manière générale, en fait, on a l'impression que c'est tout à fait justifié de se dire que, étant donné que la France est un État socialo-communiste, il faut penser à soi et puis partir.
Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours profondément choqué, et notamment le décalage avec la hargne qui vise quelque chose qui est très condamnable aussi, mais le parasitisme social. C'est-à-dire, on tape à bras raccourcis sur des gens qui fraudent le RSA, qui vont essayer d'avoir une petite aide par-ci pour payer leur loyer d'HLM en banlieue. Et évidemment, il faut le faire. C'est scandaleux. Et on a, parallèlement à ça, à cette vindicte contre les fraudeurs du bas, une indulgence coupable, je trouve vraiment coupable, envers les fraudeurs du haut, et notamment les phénomènes d'évasion fiscale, qui sont extrêmement importants, qui sont très supérieurs d'ailleurs en numériquement à ce que représente la fraude sociale. Mais en effet, comme on considère à juste titre qu'il y a un problème d'impôts en France, que l'on paye trop d'impôts, qu'ils sont mal utilisés, on se croit autorisé soit à soi-même faire de l'évasion fiscale ou de l'exil fiscal, soit à encourager les gens qui le font, oui. Ce qui est absolument scandaleux. Je veux dire, la solidarité nationale, elle se fait dans la difficulté aussi. Sinon, c'est trop simple, c'est trop facile. Si on quitte le navire dès que ça ne va pas. Par ailleurs, je rappellerai quand même aux gens de droite qui sont très hostiles à l'immigration, que finalement ils font exactement la même chose que les migrants, qui rencontrent des difficultés dans leur pays, et souvent des difficultés autrement plus graves et plus importantes que quand même ce que nous connaissons en France, quittent leur pays, fuient leur pays pour trouver un Eldorado quelque part. Et finalement ces gens-là font exactement la même chose. Donc là il y a aussi un problème de cohérence.
Oui, et puis même qui vont, j'ai envie de dire, presque parasiter les systèmes étrangers aussi pour essayer d'en tirer les bénéfices. Et à côté de ça, je vous dis, parmi les personnes qui sont entre guillemets influentes aujourd'hui à droite, on va pas donner des noms pour pas être vilain, mais si vous en voulez, je peux. Mais, mais de manière générale, il y en a quand même un certain nombre parmi les plus écoutés, de toute façon, qui vantent l'expatriation et qui disent, pensez d'abord à vous, pensez d'abord à la famille que vous voulez mener, pensez au business que vous voulez créer, et puis en fait, après ça, vous pourrez parler de patriotisme, et il y a cette idée aussi que on reviendra au moment venu pour sauver sur le
contre pays, etc. Oui, on va reconstruire, j'ai déjà entendu ça. Moi je trouve que c'est navrant, et c'est surtout la logique ultime, en effet, de la pensée libérale, c'est-à-dire qui est une pensée fondamentalement individualiste, qui est pour moi le contraire de la pensée, en effet, patriotique, identitaire et communautaire. Je vois pas comment on peut se réclamer des deux, et il faut quand même raison garder. Évidemment qu'il y a un poids excessif des impôts en France. Personne ne le niera. Mais on vit pas non plus dans une oppression socialo-communiste comme on a l'impression parfois quand on entend certains libéraux. Un patriote n'est pas prêt à supporter ça pour vivre dans son propre pays, il est pas prêt à grand chose en fait. Et surtout, il abandonne tous ses compatriotes qui, eux, n'ont pas la possibilité ni les moyens de le faire, parce que pour faire ce genre d'exil, pour s'organiser un départ, il faut quand même avoir certains moyens, ou en tout cas des métiers qui permettent de le faire. Donc c'est vraiment un égoïsme fondamental qui me paraît totalement incompatible avec la prétention à se dire patriote ou identitaire.
Si on a envie de payer moins d'impôts, il suffit de verser à Radio Courtoisie, vous êtes déductible à 66%.
C'est en effet un moyen de...
Alexandre de Galzin et moi, qui sommes richissimes, passons notre vie à faire couler un flot d'or.
Vous avez accepté mon augmentation. C'est vrai? Génial.
Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de nom.
Mais cela étant, et puis on précise aussi que évidemment, on s'en prend pas aux expatriés par principe. Il y en a plein qui travaillent pour des grandes entreprises françaises à l'étranger, qui font un excellent travail, etc., et qui sont des ambassadeurs.
L'expatriation fait partie
des ambassadeurs.
A toujours existé. Et ça dépend en effet dans quel cadre et dans quel but. Évidemment, toutes les personnes qui travaillent à l'étranger ne sont pas des traîtres.
Il faut préciser, c'était évidemment pas mon
propos.
Mais d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez intéressant là-dessus, c'est justement les États-Unis qui ont cette capacité quand même à imposer leurs citoyens dans le monde entier. Chose que n'a malheureusement pas la France, mais qui pourrait sans doute en calmer plus d'un quant à l'idée d'aller se réfugier à Dubaï ou d'aller se réfugier même en Belgique ou au Luxembourg ou je ne sais où.
Déjà, il est absolument scandaleux qu'il puisse y avoir des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne.
Oui.
Ça, c'est une aberration. Je vois pas comment ça peut fonctionner, comment on peut l'éviter en maintenant des paradis fiscaux internes à l'Union européenne. Il y a même pas besoin d'aller au Panama ou je ne sais où.
Il suffit d'aller au Luxembourg.
Il faut quand même se rappeler que la fiscalité, c'est aussi une façon de marquer son appartenance. Et moi, je peux comprendre à la limite quelqu'un qui serait un vrai libéral libertaire qui estime que la France lui prend trop et qu'elle ne lui rend pas grand-chose, et qui décide, Mais dans ce cas-là, on devient apatride.
Oui.
On paie les conséquences
au moins les droits
civiques de ses choix. Oui. Et on ne revient pas se faire soigner en France dès qu'il y a un problème, ou on ne revient pas faire accoucher sa femme en France parce que les maternités en France, tout part, le service public, c'est catastrophique, etc. Mais curieusement, ça fonctionne quand même un peu mieux que dans un grand nombre de pays. Mmh. Voilà, il faut être au moins cohérent. Après, les gens peuvent faire des choix individuels. Moi, je suis pour la liberté, mais les choix qu'on fait doivent avoir des conséquences.
Ouais. Oui, mais notamment, effectivement, on pourrait imaginer tout à fait une perte de droits civiques à partir du moment où on est exilé fiscal. La patrie, c'est peut-être un petit peu excessif.
Je ne vois pas, si on ne contribue pas à l'effort national, je ne vois pas pourquoi on a son mot à dire et pourquoi on pourrait continuer à profiter. Encore une fois, surtout après, pour taper sur les migrants clandestins en disant « oui, ils participent pas, mais ils profitent ». Et ben, je suis désolé, un certain nombre d'exilés fiscaux, ils font exactement la même chose.
Et en même temps, le côté identitaire revient ici, cher Xavier, dans ce sens où, tout de même, c'est pas parce qu'on paye pas ses impôts en France et qu'on ne contribue pas à la vie citoyenne française qu'on n'est pas français.
Non, mais après, quand on décide de rompre tous les liens qu'on a avec sa patrie, la question peut se poser. Oui, être français, ça dépasse le paiement de l'impôt, je suis bien d'accord avec vous. Je ne réduis pas à ça, mais ça fait partie quand même...
Il y a le droit de vote aussi.
Ça fait quand même partie, en fait, du package, excusez-moi pour l'anglicisme, pour pouvoir continuer à avoir son mot à dire. Parce que sinon, c'est trop facile, en effet, surtout dans une période de crise où on a besoin justement de solidarité, et notamment, même si c'est vrai que c'est sur eux qu'on tire toujours le plus, mais c'est quand même eux qui ont le plus de moyens, notamment de solidarité des plus riches et des plus aisés. C'est ce moment-là où ils doivent aider et montrer leur contribution. Je sais qu'ils le font déjà, mais... C'est un peu normal que dans une période de crise, ceux qui ont plus de moyens participent davantage.
Et
que
c'est
ceux
pas
qui
incompatible avec le fait, encore une fois, de dégraisser le mammouth. Le problème, c'est les faux dilemmes à chaque fois.
Voilà, il faut pas être
dans
le manichéisme. Donc,
nous lançons un appel solennel à toutes les influenceuses. Vendez vos bichons pour faire en sorte d'abonder le fonds de solidarité que la France ne mettra pas de mettre en place. Voilà, ne les suicidez pas, au contraire. Soyez gentils, faites-en de la pâtée, enfin, utilisez intelligemment vos animaux plutôt que de les tuer bêtement et sans profit pour personne. Merci beaucoup Xavier Mont pour cette chronique et à bientôt sur Radio Courtoisie.
Avec plaisir, à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et cette ligne droite, juste après Xavier Aymon, c'est Maximilien Frisch, notre chroniqueur littéraire préféré, animateur de la revue en ligne Mauvaise Nouvelle, éditeur des éditions Nouvelle Marge, qui va venir nous parler justement d'un livre publié chez Nouvelle Marge. C'est moi qui ai insisté pour que Maximilien parle de sa propre production. Il est trop modeste, mais là, c'était quelque chose de tout à fait intéressant puisqu'il s'agit d'un ouvrage consacré à Maurice Dantec.
Eh bien oui, merci beaucoup Richard de me permettre d'en parler. Donc, des Cahiers de la Marge, Maurice Dantec, après les Cahiers de la Marge Soares l'an dernier. Eh oui, Maurice Dantec est mort et ça fait 10 ans cette année, 2026, 10 ans au mois de juin précisément. Et 10 ans de silence, vous savez qu'aujourd'hui on peine à le trouver en rayon, que ce soit à la FNAC ou chez Gibert, alors ça c'est assez terrible. Certains l'ont oublié, d'autres me disent « connais pas ». Connaît pas. Et il nous renvoie à notre vieillesse. Voilà, nous avons vieilli. Et je réplique que dans ces cas-là, dans 10 ans, ils diront la même chose de Houellebecq. Ils diront, on connaît pas Houellebecq. C'était quand même un best-seller. Je me demande parfois si la postérité ne serait pas un concept du passé. Hein. Bref, donc nous, les Cahiers de la Marge, on croit qu'il y a encore un avenir. On peut encore sauver la littérature. En tout cas, on peut s'en souvenir. Non pas en faisant œuvre académique, encore une fois, mais tout simplement en écrivant. En écrivant nos hommages, nos tribunes, nos récits, nos entretiens, nos souvenirs, nos témoignages, nos outrances, nos clins d'œil, nos délires et puis notre nostalgie toujours. Hein. Et c'est ainsi que les Cahiers de la Marge prennent le relais pour fournir une mémoire longue à l'usage des hommes de l'avenir, comme dirait Nietzsche, n'est-ce pas hein. Donc Maurice Dantec, c'est quoi Maurice Dantec, une cicatrice, plus qu'une signature. MGD, paraphe de fin de siècle, trigramme de l'OVNI du début du suivant. Saint-Germain ne pouvait pas l'accueillir un trop cuir, trop électrique, trop sombre. C'était l'écrivain de trop, vraiment, beaucoup trop pour le faubourg. La profondeur fait toujours rire les cons, de toute façon. Et puis alors, les prophètes, n'en parlons pas, ils sont contraints à l'exil. Lui devint l'écrivain nord-américain de langue française.
Et pourtant, Dantec, pour moi, fut le dernier écrivain, car il fut le dernier à accepter le sacrifice pour et par la littérature. Le dernier à ne pas consentir à être le rentier de lui-même, la petite chose qui s'économise entre deux pilons. Non. Donc l'œuvre de l'homme est colossale, hein. C'est une bibliothèque en fait qui nous livrait à l'époque une arche. Et nous pourrions l'appeler somme, il l'aurait aimé, il m'avait dit qu'elle fût appelée ainsi. Donc voilà, et pas seulement des romans, des nouvelles, des essais, des journaux, des textes, des aphorismes, des pièges, et pas seulement des histoires à raconter, ça serait trop simple. Mais le monde a récapitulé et l'homme a verticalisé, parce que son combat, c'était d'engendrer l'objet qui opérerait la modification du lecteur, sa propre révolution, disons-le, sa conversion. Alors voilà, il fut classé policier, SF, cyberpunk, mais surtout inclassable. Il ne peut pas y avoir de frontières pour l'écrivain qui a rendez-vous avec l'au-delà, l'ultime frontière. Il est impossible de le ranger en rayon, et je ne conseille pas de le ranger en rayon, il faut l'avoir toujours à portée de main, comme un stylo, comme une arme. Alors on y entre à cause d'un hameçon culturel, hein, et une fois qu'on est dedans, on est pris de vertige. Certains y ont pénétré directement parce qu'ils ont toujours lu les livres de la Noire, d'autres plus tard parce que la SF est le bain grâce auquel ils échappent au monde, et pour ma part, j'y suis entré grâce aux journaux métaphysiques. À cause du mot métaphysique, bien sûr, ça ne pouvait pas m'échapper. Et aussi, sans doute, parce que j'avais besoin que ma conscience fût moins correcte, hein, de moins être dupe du camp du bien, comme on dit. Et Dantec fut là pour ça. Dantec qui nous écrivait l'écriture révolutionniste, dans un de ses romans, active, naissait de leur retrait, de leur absence volontaire, de leur paradoxale présence apophatique. Nous naissons donc ici, là, collectivement, de son retrait, de sa paradoxale présence apophatique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces cahiers, Richard ? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce programme de cahiers d'Antec ? Des hommages, et premier hommage, c'est rédigé par l'écrivain dont on a déjà parlé ici et qui, pour moi, a pris le relais de Dantec dans une narration globale. Une sorte de réussite de notre génération, de la génération Dantec, c'est Marc Obregon. Voilà, premier hommage. Deuxième hommage, c'est un entretien avec Dantec lui-même qui nous est offert par sans doute le meilleur, voire le seul critique littéraire français qui fait de son érudition et de l'intelligence une arme de combat, vous l'avez reconnu, c'est Juan Asensio, le méchant Juan Asensio, mais aussi l'érudit. Et citons Dantec lui-même dans cet entretien, puisque Dantec nous dit « Un livre qui n'est pas envisagé sereinement par son auteur comme un sacrifice est une blague de potache. » Et c'est bien de ça dont il s'agit, du sacrifice. Un nouvel hommage nous est offert par un membre de la première heure du Vortex. Vous saviez-vous ce qu'était le Vortex ?
Non.
C'était la société des lecteurs de Maurice Dantec que j'animais à l'époque, une petite armée. Et bien lui, il témoigne avec un texte qui s'appelle « Venir au Christ » par Nietzsche. Il s'appelle « Johann Romeo ». Et comme il est impossible de lire Dantec sans philosopher, nous avons demandé une analyse flirtant avec la théologie au philosophe Marc Alpozzo. Il nous dit « J'ai essayé dans ce texte de montrer comment Dantec s'est révélé un auteur en gestation spirituelle, du polar athée à la foi militante. » Il nous fallait bien sûr que l'hommage prenne racine en littérature et poésie. Et là, c'est Raphaël Denis qui vint ennoblir ce cahier, délicatement le ICO. Et puisque nous causons littérature, il fallait qu'il y ait création littéraire. Sylvain Gauthier, qui dirige avec moi ces cahiers, ce qui est de la marge, et grâce à qui j'ai eu accès à Ring et à Dantec, lui, il nous livre une nouvelle vertigineuse à la façon de Dantec. Non pas simplement pour prolonger le plaisir, mais pour nous faire entrer dans la tonalité dantecienne et nous faire entrer dans cette tonalité, dans la perpétuité. La nouvelle est intitulée « Racine carrée ». Il est question, bien sûr, d'islamisme. Il est question des derniers juifs d'Europe. On retrouve les marottes de Dantec. Et ce Sylvain Gauthier prolonge l'hommage par la case musicale. On ne peut pas parler de cyberpunk sans musique, quand même. Il est allé à la rencontre de Richard Pinas pour lui tirer les vers du nez. Ce ne fut pas très facile. Du coup, il a complété à sa sauce. Voilà. Et parce que Dantec a pris à rebrousse-poil tous les tenants du camp du bien et autres gardiens de la révolution du politiquement correct, il nous fallait un polémiste, et c'est Pierre Jonquet qui s'est levé, qui nous a offert sa tribune. Il nous dit « Avec Dantec, le christianisme n'est pas un gentil camp de scout entre fils de bourgeois. Non, avec Dantec, le christianisme est une insurrection morale et politique, une insurrection, une résistance contre la peste du nihilisme. Vérité et poésie sont les deux lames du même glaive. Il nous fallait l'ange capable de le tenir avec grand style. Romaric Sangar, qui vient ici souvent, nous a offert avec un sentiment ironique la lecture apocalyptique de nos temps. » Voilà. Après, nous avons bien sûr celui qui l'a connu au lycée, Luc-Olivier Dalgange, qui nous raconte la littérature d'évasion. Nous avons David Atria, le compositeur et musicien, qui termine en poésie ce cahier. Et quant à moi, je me suis contenté de raconter mon expérience, ma vie avec Dantec, mon expérience, mon travail de correcteur de Satellite Sister, qui fut pour moi un moment d'échange avec l'écrivain. Et ce roman fut pour moi le roman de l'espérance. Un écrivain de la Noire se fit lumineux, il n'était pas saisi par ses propres ténèbres, son corps devenu piteux. Et puis je racontais ces trois heures d'entretien avec Maurice, où je vis le moribond se transformer en phénix magnifique devant moi. Il respirait, nous étions dans l'intimité de son verbe, et dans sa respiration et son souffle de vapeur étrange, il fumait du métal. Mais sa voix était métallique, parce que tout était aigu dans sa gravité. Il est enchaîné, c'est si vous voulez, ok. Mais en fait, parce qu'il parlait avec autorité, comme Sainte Bernadette, il n'était pas chargé de nous convaincre, de nous faire croire. Il était chargé de nous le dire. C'était vraiment le prophète de cette vérité. Alors voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Vous voyez que vite, c'est terrible. Parce que ça me passionne. Mais donc voilà, c'est notre premier hommage pour les 10 ans de la mort de Maurice Dantec, 2026. Et j'espère bien qu'il y en aura plein d'autres cette année. Lisez ça, c'est notre cahier, mais surtout lisez Dantec juste après, parce qu'il y a urgence, il y a toujours eu urgence de lire Dantec.
Voilà, il y a toujours urgence de lire Dantec. Il y a une dans un de vos textes, vous rappelez l'une de ces phrases, « Je suis centenaire depuis mes 30 ans », qui est vraiment typique de ce que Dantec a été capable d'apporter une fois sa conversion au christianisme. Voilà, c'est une espèce de, non pas de mépris du temps, mais il s'était coulé dans le temps, c'était absolument admirable. Merci mille fois Maximilien Frisch. Voilà, je rappelle, voilà les cahiers de la marge, Maurice Dantec aux éditions Nouvelle Marge, 18 euros, c'est donné.
Merci Richard.
Et tout de suite, Jérémy Combe nous apprend comment vivre.
Aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Alors, on a déjeuné, on a su utiliser ses couverts, on sait où poser son pain. Le déjeuner est fini, qu'est-ce qu'on fait de sa serviette?
Eh bien, c'est une vraie question, parce qu'à table, il y a un geste discret que l'on remarque surtout quand il est mal fait, l'usage de la serviette. On se lève de table quelques instants pour répondre à un appel, déjà à ses limites, pour saluer quelqu'un, pour aller se laver les mains. Et là, une hésitation, que fait-on de sa serviette, Richard? Sur la table? Sur l'assiette? Sur le dossier de la chaise? Ce geste en apparence anodin est en réalité très codifié dans l'art de vivre à la française. À l'origine, la serviette n'est pas un simple accessoire. Elle est liée à la propreté, à la retenue et à la dignité. Pendant longtemps, on mange avec les mains ou avec des couverts rudimentaires. La serviette protège alors les vêtements et surtout, elle contient les gestes. À la table des grandes maisons, comme j'aime dire, la serviette devient rapidement un signal social. Elle indique si l'on mange encore ou si l'on a terminé. La poser n'importe comment revenait à envoyer un message confus au service et aux autres convives. Dans les repas formels, poser sa serviette sur la table en se levant était interprété comme un signe de fin de déjeuner ou de dîner. Or, quitter la table avant la fin sans y être invité pouvait être perçu comme un manque de respect. A l'inverse, laisser sa serviette bien placée montrait que l'on comptait revenir et que l'on respectait le rythme collectif, toujours la même chose. La serviette parlait sans un mot. Concrètement à la française, si vous vous levez momentanément, la serviette se pose sur la chaise, soit sur l'assise, soit sur le dossier. Jamais dans l'assiette, jamais étalée sur la table. En fin de repas, la serviette se pose à gauche de l'assiette sans être repliée soigneusement. Elle ne doit être normalement ni froissée, ni remise comme neuve. Pourquoi ? Vous vous posez la question. Parce qu'une serviette trop pliée donne l'impression qu'elle n'a pas servi, ou que vous reviendrez pour le prochain repas. Aujourd'hui encore, dans un dîner élégant ou professionnel, ces gestes restent très observés. Ils traduisent le respect du repas, l'attention aux autres, la compréhension des codes. La serviette est un langage discret, mais extrêmement lisible pour qui sait observer. À table, ce ne sont pas les grands gestes qui comptent, mais les gestes justes. Ce sont souvent ces détails qui font la différence entre quelqu'un de poli ou quelqu'un qui ne l'est pas. La manière dont vous posez votre serviette raconte votre rapport au groupe, au temps et au respect. En France, même la serviette a quelque chose à dire. À table, Richard, l'élégance se cache souvent dans les gestes les plus discrets.
Merci beaucoup, Jérémy Combe.
Merci à vous. À la semaine prochaine.
Et nous retrouvons avec plaisir Tugdual Denis, notre partenaire Valeurs Actuelles, pour parler justement du dernier numéro de Valeurs Actuelles paru cette année, Municipal, le péril rouge, notre tour de France des accords indignes entre la gauche et la France insoumise, parce que évidemment, on est en train à gauche de signaler à quel point le RN est quelque chose de nocif et à quel point Gérard Larcher a raison de vouloir bannir le RN et l'UDR et reconquête de l'espace républicain, puisque Gérard Larcher parle de droite républicaine. Mais en fait, la gauche est en train de faire la même chose. Il y a des dizaines d'accords entre LFI et les écologistes, entre LFI et le PS. Et justement, ce sont ces accords indignes dont Tugdual Denis va nous parler dans un instant. Encore un instant, alors. Bonjour, Tugdual Denis.
Charles. Je suis là, Richard. Comment allez-vous?
À merveille, et vous-même?
Bah écoutez, je suis rentré de Dubaï il y a 2 jours et je peux vous dire que je suis content d'être en France parce que j'ai été bloqué là-bas une semaine.
Alors, vous avez été obligé d'abattre votre carlin, votre bichon, où vous aviez... Certaines influenceuses sont réputées avoir supprimé leur animal de compagnie pour pouvoir être rapatriées. Mais bah, je suppose que vous n'étiez pas dans ce cas-là.
J'étais juste parti avec mes 2 enfants et ma femme, visiter la marraine de ma femme qui est expatriée là-bas. Et donc, je ne suis pas parti avec un animal de compagnie que, par ailleurs, je ne possède pas.
Bon, et ben voilà. Alors, à propos d'animaux de compagnie, on est obligé de vivre en compagnie de LFI et de ses affidés. Et justement, donc, il y a un véritable péril rouge sur ces municipales.
Oui, contrairement d'ailleurs à ce que laisse entendre le Parti Socialiste, qui, il y a une semaine, a décrété Urbi et Torbi qu'il n'y aura plus d'accord avec la France insoumise et que, dans un communiqué au ton assez solennel et faussement larmoyant, le Parti Socialiste nous indiquait qu'on n'allait plus les y reprendre et que désormais c'était fini de cet accord indigne. La réalité est malheureusement tout autre. Il y a de nombreuses villes, et nous faisons le tour de France cette semaine dans le journal, que ce soit Annecy, que ce soit Strasbourg, que ce soit Poitiers, que ce soit Avignon, que ce soit Nantes, Marseille, Toulouse, Amiens ou Lyon. La réalité, c'est qu'il y a parfois des accords de premier tour entre socialistes, écologistes, communistes et insoumis, ou à tout le moins des projets de désistement, et qui donc reviennent au même, c'est-à-dire qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec des conseils municipaux où siégeront côte à côte dans une même majorité ou une même opposition des partisans de Jean-Luc Mélenchon et des membres de partis réputés plus conventionnels du reste de la gauche. Ce qui est assez incroyable, si vous voulez, c'est ça qu'on a voulu pointer, et c'est pour ça qu'on a fait cette couverture, c'est que Jean-Luc Mélenchon, de la mort de Quentin Derenck à la manière dont il prononce le nom de Jeffrey Epstein ou de Raphaël Glucksmann, en passant évidemment par son communautarisme débridé, son projet de créolisation de la société française, a franchi les limites de l'acceptable depuis extrêmement longtemps. Et s'il arrivait à un parti de droite ou réputé de droite d'avoir des outrances pareilles et des franchissements de Rubicon aussi fréquents, je peux vous dire que ce parti s'en retrouverait isolé durablement sur la scène politique. Mais l'opportunisme électoral des partis de gauche n'a absolument aucune limite morale, aucune barrière morale, et vous allez voir que finalement, les pudeurs de gazelle des uns et des autres vont s'effacer derrière les intérêts électoraux et l'opportunisme professionnel de ces partis.
Effectivement, on est toujours stupéfait de voir la gauche se renier elle-même. On a l'impression d'ailleurs que l'offensive contre Quentin Derenck est en train de battre son plein, puisqu'il s'agit en permanence non pas de faire amende honorable, d'être capable de s'allier avec des antisémites et des violents comme LFI, mais au contraire d'expliquer que, au bout du compte, Quentin Derenck a bien mérité ce qui lui est arrivé et que donc toutes les alliances sont permises avec LFI, qui est sanctifié en fait bizarrement par le sang de Quentin Derenck, qui lui retombe sur la tête mais le lave plus qu'il ne le souille. Et il y a aussi un grand entretien avec Marcel Gaucher. Nous sommes à un moment de bascule qui est tout à fait intéressant dans le Forum VA.
Oui, tout à fait. Alors, Anne-Laure de Becker, qui est la chef de rubrique de cette de ces pages débat idées de Valeurs Actuelles pistait Marcel Gauchelet depuis longtemps parce que c'est un grand intellectuel mais assez demandé et donc qui n'est pas toujours disponible et qui justement d'ailleurs a la sagesse de réserver sa parole quand il a vraiment des choses à dire. Marcel Gauchelet, pour le présenter rapidement à vos auditeurs, c'est le grand penseur du basculement anthropologique français. C'est celui aussi qui a, avant même Jérôme Fourquet, analysé la bascule une fois de plus, et en tout cas la dimension matricielle que peut avoir la religion catholique en France, et donc son effacement et les conséquences que cela peut avoir. Dans cet entretien, il fait un peu la liste des idéologies à laquelle la vie contemporaine est confrontée, et il explique avec brio qu'aujourd'hui c'est le néolibéralisme qui se trouve en fin de cycle, et j'invite vraiment vos auditeurs à lire ce penseur aux idées et aux concepts lumineux.
Merci beaucoup Tuc Dieldany, et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Richard.
Et nous sommes maintenant en pleine zone libre qui va nous permettre d'accueillir les autres membres de la rédaction de Ligne Droite qui sont présents ce matin, et notamment Louis Rigaudière. Bonjour Louis.
Bonjour à tous les auditeurs. Ça va bien ce matin ?
Mais bien, et vous ?
Bah, écoutez, très bien. Très bien. Ravi de vous parler de mon sujet de ce matin, comme chaque vendredi. Je voulais vous parler de bouffe, et plus particulièrement de malbouffe. Vous connaissez un petit peu ce que mange la jeune génération en ce moment ?
Et je refuse de m'intéresser aux tacos et autres, je ne sais pas.
Oui, bah justement, on n'en est plus là. Maintenant, la page a été tournée. Je m'excuse auprès des auditeurs. Le trust, c'est bien ça, Alexandre ?
Tasty Crusty,
que je ne connaissais à peine, je ne connaissais même pas il y a encore quelques jours.
J'en parle un peu dans mes chroniques pourtant.
C'est vrai qu'il faut les écouter attentivement. Et c'est quelque chose, une tendance qui est en train de submerger absolument tout ce qui est tacos, kebab, qui sont en train petit à petit de fermer le rideau, de baisser le rideau dans les grandes villes au profit de ces Tasty Crusty.
Voilà, alors, vous allez y arriver.
Pour le décrire simplement, c'est une espèce de mixture avec du riz et du poulet bas de gamme, bien évidemment. Tout ça entremêlé dans une sauce sucrée ou salée d'ailleurs, mais extrêmement grasse. Mmh. Et ça donne quelque chose, une espèce de pâte assez épaisse. Mais en tout cas, c'est une bombe calorique et qui est en train de faire fureur absolument dans la jeune génération.
Alors, comment mange-t-on ce délice ?
Ah, c'est alors très particulier, mais alors découvert, en tout cas, c'est toujours mieux, en tout cas pour les gens lambda. Mais on voit aussi, voilà, il y a plusieurs manières de le manger, avec des doigts notamment. Donc c'est très, très délicat, très classe. Mais je vous ai découpé un petit sonore de personnes assez classiques qui tentent de découvrir un petit peu ces nouvelles coutumes culinaires. Et c'est assez parlant, je me suis baladé sur les réseaux sociaux et je vous propose d'écouter leurs réactions.
Oh, ça donne envie. Hein, Donc il y a du riz à l'intérieur, il y a du poulet. La guerre comme à la guerre. Ah, c'est dégueulasse. Oh là là, quelle horreur.
Celui-là, c'est quoi ?
Oh là là, je crois que
c'est oh là là, mais c'est quoi cette chose jaune là ?
C'est du curry.
Oh là, c'est du vomir.
Oh, mais dégueulasse!
Je suis sûr que vous exagérez.
Oh! Donne-moi le sac.
Ah!
Bon. Ok, je crois qu'on a compris.
On a le concept.
C'est du chewing-gum. Ah, c'est dégueulasse.
Et Tasty Crusty, excuse-moi, mais il n'y a rien qui croustille. Hein. Il est mou que ton poulet.
Voilà. Non, mais on en rigole, mais malheureusement, c'est un phénomène qui est colossal. Il y a beaucoup de reportages qui sont faits par les grandes chaînes où on voit des files d'attente.
Oui, mais alors,
vraiment magistral.
Ça, c'est lié à effectivement une stratégie, pardonnez-moi le terme, si jamais vous avez un représentant de. C'était un meilleur représentant, vous me dites, mais marketing.
Commercial.
Oui, commercial, on va dire la stratégie commerciale des Tasty Crusty, qui est en fait à chaque
très
ouverture, non, mais qui est à chaque ouverture de donner X repas gratuits, et donc on voit s'accumuler des centaines de personnes se diriger vers des Tasty Crusty dans le but d'obtenir un Tasty Crusty gratuit dans ces files. Et alors c'est quelque chose qui vous étonnera peut-être, chers auditeurs, mais les principaux consommateurs, du moins dans les images qu'on peut observer de ces Tasty Crusty, sont les jeunes.
Issus de banlieue généralement.
Mais, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire des jeunes issus de l'immigration qui apparemment sont friands de ta stick moustie.
Ah oui, c'est peu dire, hein, parce que c'est une telle effervescence pour de la nourriture, c'est quelque chose que je ne comprendrais pas. Ouais. Faire la queue plusieurs heures, le temps que ça refroidisse, alors, etc., je ne saisis pas.
Eh bien, je vais aller même plus loin. Il y a d'autres phénomènes un petit peu dans ce genre qui... Vous vous rappelez de cette histoire de la sauce El Morgen, cette fameuse pâte
mais oui,
tartinée
mais oui,
algérienne.
Exactement. Mais qu'on en trouve d'ailleurs dans les grandes surfaces, cette sauce, d'ailleurs, qui n'est pas si interdite que ça.
Alors, dans les grandes surfaces, je ne sais pas, dans les épiceries, je sais qu'il y en a parfois. Ouais. Dans les grandes surfaces, j'en ai jamais vu. Mais en fait, il y a plusieurs phénomènes comme ça, mais en fait de nourriture, on va dire presque communautaire, qui justement fonctionne notamment grâce à ces jeunes issus de l'immigration qui consomment des quantités faramineuses. Il y a aussi ce chocolat Dubaï, ah oui. Par exemple, qui est apparu dans de nombreux supermarchés.
Qui vaut une fortune.
Qui vaut, je crois, 13 euros la plaquette.
Ah oui, ça. C'est
fourré à la pistache, si
oui,
je ne
exactement. Exactement. Mais, ouais. Mais voilà, donc c'est...
Mais en tout cas, la manière dont c'est traité par les grands médias, cet aspect communautaire n'est jamais mis sur la table. Hein.
Ah,
c'est
non,
ça
non,
qui
non,
est
bah,
vraiment
oui,
très,
oui.
très intéressant
alors
à suivre.
Très visible. Hein,
et c'est extrêmement... Oui, c'est pourtant, ça saute aux yeux, mais malheureusement, voilà, c'est un phénomène, en tout cas, qu'il faut acter. Nous n'en sommes plus à l'ère des kebabs et à l'ère des tacos. C'est fini tout ça, c'est alors, du passé.
Vous voulez dire qu'on va finir par regretter même les kebabs et les
mais
tacos
oui, mais voilà, les tendances ouais. évoluent. Et voilà, maintenant, on en est à l'ère du toasty, crusty. Reste à savoir.
Non,
mais maintenant,
mais
si ça va vraiment percer.
Je suis ravi que vous prononciez si mal.
J'essaie de m'intégrer, en tout cas, à cette nouvelle culture. C'est pas évident.
Le jour où vous prononcerez correctement toasty, crusty, je pense qu'on
il existe aussi des versions sucrées, mais vraiment, au-delà, c'est vraiment même bombe calorique. Le terme ne suffirait pas. Mais
pistache poulet.
Voilà, avec du Nutella, etc. etc. Oui, bon, oui. Je vais éviter de citer des marques, mais en tout cas, c'est extraordinairement calorique et ça expliquerait voilà, le nombre d'obèses et de problèmes de santé.
J'avais une actu, évidemment, sans doute beaucoup plus intéressante de tout ce qu'on a vu ce matin. Il me reste 10 secondes, donc je vais la résumer en quelques mots. Vidéo très troublante que je vous invite à trouver, chers auditeurs, quand même un peu dure. On va terminer sur une note triste. Deux guépards qui se sont fait voler leur springbok par un chacal.
Oh,
donc, c'est quelque chose qui s'est déroulé, effectivement. En Afrique, il y a quelques jours, voilà, deux guépards qui étaient en chasse et un chacal leur a volé leur springbok.
Ah là là.
On les soutient.
Eh bien, c'est horrible. Merci beaucoup, Alexandre de Galzin. Merci, Louis Godière. Et merci à vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis sur YouTube et sur X. Un dernier petit geste avant de nous quitter. Voilà, vous êtes nombreux à nous soutenir. Eh bien, rejoignez la cohorte de ceux qui ont choisi la liberté d'expression.
Rejoignez les donateurs de Radio Courtoisie en nous faisant des dons en ligne sur soutenir. rc.fr et en envoyant vos chèques par la poste à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris.
Merci Arnaud et tout de suite nous réécoutons notre sujet du début de la matinée avec Isabelle Surpli, candidat du Nom des Droites, et bien justement Union des Droites, le pari gagnant.
Ligne droite. Debout les Français.
Et Debout les Français, c'est avec Isabelle Surpli, candidate du bon sens à Saint-Chamond. Bonjour Isabelle Surpli.
Bonjour Ligne Droite et Radio Courtoisie.
Voilà, et tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc vous vous présentez pour la deuxième fois aux élections municipales à Saint-Chamond.
Oui, ouais, je suis très fière parce qu'en fait j'ai un souvenir ému des élections du 15 mars 2020 où le maire sortant sous cette espèce de cocotte minute du Covid, est réélu au premier tour et la journaliste me demande alors, pas trop déçu d'avoir perdu. Et je lui réponds, la campagne de 2026 commence maintenant. Donc voilà, je suis très ému qu'on arrive maintenant à la veille parce que la campagne finit ce soir à minuit.
Voilà. Alors, et vous aviez fait 13% d'ailleurs en 2020.
Oui, on a conservé les deux sièges au Rassemblement National. Donc c'était l'objectif, c'était une candidature d'implantation. Et puis maintenant, on est la candidature de la victoire parce que je repasse pas 7 ans face à une opposition qui n'a fait que mentir et piquer dans les poches des Couramio. Ça, c'est pas possible.
Alors, justement, avant qu'on en arrive à la manière dont les Couramio, donc autrement dit les habitants de Saint-Chamond, se sont fait faire les poches par la mairie sortante, revenons un tout petit peu sur votre liste. Donc, ça s'appelle la liste du bon sens. Et ce bon sens, c'est l'ERN plus l'UDR d'Éric Ciotti, plus Identité Liberté. Vous êtes une vraie liste d'union de la droite.
Alors, on est une liste d'union de la droite et en fait, qui va au-delà même des partis, puisqu'on a déposé une liste en préfecture sans étiquette. Et sur ma liste, j'ai des candidats non encartés, qui sont, on va dire, des primo candidats de toute leur vie. Il y a des encartés du RN, des encartés chez UDR, les encartés dans le parti de Marion Maréchal, IDL. J'ai un ancien LR. je ne leur dites pas, je crois qu'il ne sait pas encore qu'il a toujours sa carte. Mais, et puis des gens de tous horizons. J'ai des gens qui viennent du centre et de la gauche. Donc, on a fait un grand écart à 180 degrés sur cette liste. Je suis vraiment hyper fière parce qu'on a réussi à dépasser vraiment cette dépendance des oukases politiques et des appareils. Donc, je vole de mes propres ailes avec des gens qui sont pleins de bon sens et j'adore.
Alors, vous les adorez. On a l'impression que les gens de Saint-Chamond donc, sont eux-mêmes plutôt acquis à l'idée de voir une nouvelle tête. Alors, on ne vous promet pas la victoire, mais évidemment, on l'espère. Un journaliste de France Bleu vous a tout de suite posé la question qui tue, vraiment, où on sent l'attachement aller au bout de la vérité. Quand on parle d'unité cynophile, autrement dit de policiers avec des chiens municipaux, certains disent oui, mais les chiens sont muselés et on n'a pas le droit d'enlever la muselière tant qu'on n'est pas en état de légitime défense. Et on sentait que dans la manière de rentrer précisément dans le maniement de la muselière, il y avait là un doute légitime sur la manière dont véritablement une unité cynophile serait capable de régler les problèmes de Saint-Chamond.
C'est la seule question de toute la campagne, enfin, je pense en 6 ans de campagne, c'est la seule question du service public qui a été pertinente. Et donc, je suis hyper contente que vous me la reposiez parce que je suis la seule candidate à être allée voir la seule, ça fait beaucoup de seuls, mais c'est important.
Seule avec tous ceux qui vous accompagnent, c'est très bien.
Ouais, voilà, on est allé voir la seule unité cynophile municipale de la Loire entière. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une vague idée. À Saint-Étienne, ils ont une unité cynophile, mais de la police nationale. Donc on est allé les voir plusieurs fois avec mon adjoint à la sécurité et on leur a dit, ben voilà, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une unité cynophile? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? On était persuadés qu'un chien d'une unité cynophile pouvait renifler de la drogue. Or, c'est pas sa compétence. Et je voulais chiffrer, je voulais savoir en temps, horaire, bref. Donc, on est devenus incollables. Et je sens dans la question de la journaliste que mon projet de l'unité cynophile, c'est genre un vœu pieux, un truc complètement vain. Or, on apprend qu'à Lorette, donc la commune pas loin de Saint-Chamond, la délinquance a baissé 38%. Et on apprend aussi que les trois compétences de ce chien, c'est donc la frappe muselante. Et moi, je peux vous dire que je l'ai vu et je l'ai touché, la muselière. Un type, un délinquant qui se fait allumer par un chien d'une brigade cynophile muselée, il s'étale par terre. Hein. Je veux dire, c'est ultra efficace. Après, ben, quand vous avez fait une arme létale, vous démuselez votre chien et c'est la frappe mordante. Bon, autant vous dire que bon, ça va devenir compliqué de continuer son délit. Et la troisième compétence, c'est ce fameux fantasme de la recherche de la drogue, mais non, c'est la recherche de la personne disparue et du présumé, du délinquant présumé en fuite. Donc, c'est hyper efficace. Et d'ailleurs, le brigadier chef de Lorette me disait, quand on sort le chien, la dernière fois, exemple concret, avec un menace avec un cutter, le type a lâché le cutter, il s'est mis à genoux, il a mis les mains derrière okay. La tête, donc... Voilà. Très efficace.
Grande influence des séries télé sur la délinquance dans la Loire.
Et ce qui m'a devant le chien, ouais.
Voilà. Ce qui m'a fasciné dans cette question qu'on sentait quand même un peu orientée, c'est la manière dont effectivement vous parlez très naturellement et tout de suite de frappe muselante, de frappe mordante. Ouais. On sent que ces 6 ans dans l'opposition à Saint-Chamond vous ont permis en fait de creuser les dossiers et de connaître votre ville sur le bout des doigts.
En fait, oui. D'ailleurs, je dis souvent notre ville. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de passage et il y a beaucoup de Lyonnais qui viennent soit y bosser, soit déménager. En fait, j'ai voulu faire de la politique comme personne. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est vrai qu'on est dans l'opposition, on est 2 élus, ma collègue, elle travaillait énormément. Moi, j'ai la chance d'avoir été graphiste à mon compte, mère au foyer avec un mari stéphanois absolument parfait qui m'a aidée tous les jours pendant 6 ans. Ça, c'est très, très, très important parce que c'est un peu un esprit d'équipe. J'ai aujourd'hui une grosse équipe qui m'aide. Vous voyez, je donne un exemple. J'ai eu un souci de santé pendant la campagne. Et ben, personne ne l'a vu parce qu'ils ont continué à faire sur le terrain. Et surtout, j'ai voulu faire ce que personne ne fait. Donc, j'ai fait une journée avec... j'ai fait 12 heures avec les pompiers. J'ai tout fait avec eux. J'ai fait une journée comme les pompiers. J'ai demandé à visiter le centre de supervision urbain, vous savez, cette espèce de caverne où il y a toutes les caméras de vidéoprotection, parce que j'avais absolument aucune idée de comment ça fonctionnait. Et je suis d'ailleurs tombée des nues. Et le mythe de la caméra de vidéoprotection qui sauve les gens s'est effondré. Et c'est vrai que dès que je me suis dit, OK, on veut mettre une unité cynophile, ben, on va aller voir les premiers qui l'ont fait. Et je veux tout savoir. Je note tout. On a des cahiers entiers. Je suis très souvenir matériel. Donc, je veux être incollable. Et d'ailleurs, on a rigolé parce que, au dépens d'un de mes adversaires, parce que on lui a posé la question de, lui, il appelle ça une brigade canine, ce qui est totalement faux, sémantiquement et logistiquement. Et je lui ai dit, mais monsieur le candidat, la brigade, l'unité cynophile, donc je le reprends, municipale n'est pas faite et n'a pas la compétence d'État de renifler de la drogue et de lutter contre la drogue. Donc c'est important quand on est défié devant les Français et plus précisément les habitants d'une commune auxquelles on se présente pour être maire, d'être incollable. Et ça, je veux travailler là-dessus, quoi.
Alors, vous travaillez là-dessus, vous travaillez aussi sur, évidemment, l'endettement de la ville, vous travaillez sur les friches industrielles. Quels sont les véritables problèmes de Saint-Chamond ?
En fait, le principal problème de Saint-Chamond, c'est de ne pas devenir une ville dortoir. Ils détestent quand on dit des choses pareilles, mais c'est un peu vrai. On est entre, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais on est entre Lyon et Saint-Étienne, deuxième plus grosse ville de la Loire, chef-lieu quand même, c'est pas n'importe quoi, 36 000 habitants avec une population qui est un peu scindée en deux. Et donc, les gens viennent habiter à Saint-Chamond parce que l'immobilier n'est pas cher et on y vit bien. On a des hauteurs comme la Chabure et Chavannes qui sont très agréables à vivre parce que on est sur des coteaux très, très, très ruraux et très sympathiques. Mais son principal problème, c'est son insécurité de la délinquance du quotidien. C'est pas du grand banditisme, c'est vraiment la délinquance du quotidien qui pourrit la vie des gens, sa propreté, c'est-à-dire sa non-propreté. Il y a quand même, je donne un exemple, j'ai fustigé le fait que la laveuse municipale ne soit pas sortie depuis 5 ans du garage municipal, et ça fait 3 jours qu'il s'évertue à nettoyer les sols devant ma permanence et en centre-ville. Donc il y a quand même une grosse moquerie derrière ça, et c'est pas un sentiment, hein. C'est vraiment factuel ce que je vous dis. Donc il y a cette insécurité et cette insalubrité des sols, des déjections canines, qui n'a jamais été, il n'y a jamais eu la volonté politique derrière de le régler, parce qu'on est dans une majorité municipale sortante bien confortablement assise dans ses sièges, et on a une sale image. Donc moi, à chaque fois que je dis que je travaille à Saint-Chamond et que je suis élue à Saint-Chamond, parce que je suis aussi conseillère régionale de la Loire, les gens ont un geste de recul physique en faisant Donc, il y a cette image à casser. Donc, en mettant un grand coup d'abord sur l'insécurité et sur la propreté, et après, effectivement, faire revenir des entreprises. Mais on est vraiment dans la spirale du vide. Il va falloir taper fort. Hein.
Alors, merci. Je rappelle que nous sommes en train de recevoir Isabelle Surplis, qui est conseillère municipale à Saint-Chamond et qui vise la municipale aux élections municipales, la mairie de Saint-Chamond. Tout à l'heure, nous recevrons dans quelques minutes Natacha Polony. Vous faites l'objet, Isabelle Surplis, comme tous les candidats de droite, d'une surveillance haineuse, vétilleuse et tatillonne de la part de l'extrême gauche qui s'acharne non pas à parler de vos idées, non pas à parler de votre programme, mais s'évertue à montrer que vous êtes un danger en puissance parce que vous n'avez pas leurs idées. Et Gérard Larcher, d'ailleurs, lui-même, a l'air de dire qu'il suffit qu'un LR fréquente un UDR ou un RN pour devenir persona non grata dans son parti. Que pensez-vous de la manière dont la campagne municipale est politisée à mort, où on explique, même à Saint-Chamond, le fait de voter pour vous, c'est ouvrir tout grand la porte au fascisme rampant?
Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils sont sur mes côtes et qu'ils n'ont eu qu'à sortir... En fait, moi, j'ai ricané parce que j'ai découvert que j'étais mariée avec mon mari dans cet article.
Horreur.
Voilà. Et que j'étais encartée au RN avant. C'est terrible, affreux, et que Marion Maréchal était une de mes proches. Donc, nihil ne vis sub solé, on connaît ce genre de méthode comme sur France 3 où on parle du Troisième Reich avant les élections présidentielles. Bon. La ficelle est grosse et moi je suis contente parce que les gens ne tombent plus dans le panneau. Je trouve que les électeurs notamment, hein, parce que c'est directement à eux que sont adressés ces tissus de mensonges, ces grossièretés. Et puis en plus ça révèle la vie privée. Je veux dire, c'est, nous avec mon mari là, on est devenus. Ce que je lui disais, c'est que on s'est fait déshabiller en 2 secondes. On est tout nus sur la place publique. Ça n'a l'air de déranger personne. Bon. Le fait est qu'on est aux portes du pouvoir au niveau local. et que ce genre de réaction, moi, me rassure parce que ça veut dire qu'on va gagner. Ils sont immensément stressés. Donc, s'ils pouvaient raconter et inventer que je mangeais des migrants au petit déjeuner, je pense qu'ils le feraient. Mais comme ils ne sont pas assez malins pour le faire et qu'ils n'ont pas forcément la technique pour le faire, ils ne le font pas. Mais ce que je trouve intéressant, et c'est ce que j'ai répondu à la journaliste, c'est que recevoir des leçons de morale par des types qui ont fondé Street Press, qui sont mouillés jusqu'au cou dans les affaires Epstein, dans le dossier Epstein, et qui soutiennent des types comme la Jeune Garde qui ont assassiné Quentin, bon, voilà, moi ça me rassure du fait que je suis droit dans mes bottes et que nous sommes effectivement du bon côté de la barrière, enfin du mauvais pour eux, hein, mais que nous avons raison et que le bon sens c'est nous, que la France c'est nous et que ces gens-là ne doivent évidemment pas continuer de proliférer. D'ailleurs, il faudrait leur couper leurs subventions publiques. Ça, c'est un vrai projet, un autre sujet.
Ah, une dernière question en une minute pour les cours à Mio. Voilà, votre première action, une fois que vous arrivez à la mairie
lundi 16 mars.
Voilà, non, c'est ça, après le deuxième tour.
Lundi 23 mars, la première chose que je fais, c'est de réunir les services, en réalité, dans l'espace-temps. Hein. C'est-à-dire que la première décision politique, c'est l'audit financier. Il va sortir tous les cadavres du placard. Mais la première chose humaine que je fais, c'est de réunir les services. Parce que souvent, ce qu'on fait croire quand on est un maire sortant, c'est que les opposants vont virer tout le monde. Et moi, je veux les rassurer parce que ce qui fait tourner une mairie, ce ne sont pas les élus, ce sont les agents. Nous, on en a plus de 700, donc je vais tous les rencontrer. Et après, en parallèle, parce que j'aurai un cabinet extrêmement efficace, on lance un grand audit aujourd'hui. Et je suis contente de pouvoir le dire sur votre antenne parce que personne ne veut le relayer. Aujourd'hui, suite à mes plaintes, deux enquêtes ont été ouvertes. Une première concernant les dîners privés, puisqu'ils ont mangé pendant des lustres sur le dos des cours à Mio, en tête à tête, avec des grosses bouffes, je peux vous le dire. Et la deuxième, beaucoup plus grave, c'est la prise illégale d'intérêt et du favoritisme au sujet de l'achat des véhicules communaux. Voilà, ces gens ont été entendus par la police, cour Fauriel, et ils se sont bien gardés de le dire aux gens, aux habitants. Donc voilà, je voudrais remettre l'église au milieu du village de Saint-Chamond parce que ce que j'ai fait, ça fonctionne. Ça va être très long, donc je demande aux habitants de Saint-Chamond de la patience comme j'ai pu en avoir, et Dieu sait que c'est pas ma qualité première, mais voilà, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Surplis, et j'espère merci à bientôt pour parler de votre victoire ou d'autre chose.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, merci d'avoir été avec nous toute cette matinée. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir continuer à écouter Radio Courtoisie. Juste avant, un dernier petit rappel aux dons. Voilà, une fois de plus, vous êtes 1 million à nous écouter. Vous êtes des milliers à nous soutenir. Eh bien, rejoignez cette cohorte de ceux qui veulent soutenir la liberté d'expression et la véritable information.
Ouais, soyez également donc des millions à nous soutenir financièrement en nous envoyant des dons en ligne via cette adresse. Notez-la bien, soutenir. .rc.fr, soutenir.rc.fr. Et puis également, vous pouvez envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et avec tout cet argent, on fait d'excellentes émissions.
Comme par exemple aujourd'hui, et ce sera le programme du jour évidemment, à midi, le libre journal des éditeurs de Jean-Paul Nadéo, Amour, roman et histoire. Histoires à la loupe à 17h de Patrick Simon, consacré à Marie-Josette Liégeois, ce sera la quatrième partie de cette série d'émissions. 17h30, Restons Courtois, dirigé par Marc Baudrier ce soir, à suivre également en direct sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie et sur X. Le pétrole prend feu, la France face à cet incendie planétaire, et puis Quentin au cœur d'une bataille médiatique. 19h30 en direct, Il était une fois, dirigé par Patrick Simon. Et puis ce soir à 21h30, également en direct, Prolongation, émission proposée par Stanislas Rigaud. Et puis nous finirons la journée plutôt avec Patrick Banken et l'émission Chant Grégorien, consacrée cette semaine au quatrième dimanche de Carême, dit Laetare.
Merci beaucoup Franck, et voilà, et pour ma part, Arnaud. Je vous dis Arnaud, oui d'accord, ouais, Arnaud, mais oui, c'est mais ça, oui. C'est vrai, il ne ressemble pas du tout en plus. Merci beaucoup Arnaud, et rendez-vous à lundi, puisque demain c'est samedi.
À lundi.